Bonjour aussi à ceux qui nous suivent sur Zoom. Que Dieu, notre Père, puisse nous bénir et nous faire du bien pendant que nous allons écouter sa parole, n'est-ce pas? Avant que je vous pose une question, je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es le seul et le vrai Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Seigneur, je m'incline devant toi. Je suis qu'un instrument inutile. Je suis que le canal que tu as choisi aujourd'hui pour parler à ton peuple. Alors, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que tout en moi, Seigneur, soit à toi. Seigneur, fais de moi cet instrument que toi, tu veux bénir ton peuple. Merci encore, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent pendant tous ces temps que nous allons être à tes côtés, en ta présence. Loué sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Ma question est la suivante. Comment allez-vous? Écoute, cette réponse, je peux dire, ne me satisfait pas. Parce que vous êtes un peu comme des personnes qui sont épuisées, fatiguées. Alors, je réitère encore ma question. Comment allez-vous? Et après le 5 décembre, vous serez toujours bien. Voilà. Nous allons bien parce que Dieu veille sur chacun de nous. Amen. Il y a des chants qui m'ont beaucoup touché. Tout était bien, n'est-ce pas? Mais posterne, nous confessons. Le deuxième, je m'incline à tes pieds. Nous venons de chanter, bien-aimés, ces deux cantiques. Il n'y a pas une place ou un endroit plus sûr que d'être aux pieds du Seigneur. N'est-ce pas? Il n'y a pas un endroit plus sûr. Même dans notre lit, ce n'est pas pareil. Mais c'est vraiment quand on est au pied du Seigneur, c'est vraiment un endroit reposant. Nous connaissons tous cette joie quand nous sommes vraiment au pied du Seigneur. Vous connaissez tous aussi un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Nebuchadnezzar. Il était roi de Babylone. Que dit Daniel? Nous trouvons l'histoire de ces rois dans Daniel 4, verset 30. Qu'est-ce que le roi a dit? Il a dit ceci, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence, donc sa majesté. Qu'as-tu? Qu'est-ce qu'il a cet homme, ce roi, pour parler ainsi, élever sa voix et parler ainsi? Bien-aimés, nous constatons ici l'orgueil de ce roi, imbu de lui-même, son ego qui lui avait même valu le châtiment de Dieu. Son orgueil lui a valu le châtiment de Dieu. Il a soulevé la colère de Dieu. Et nous voyons tout cela au verset 31 à 33 que nous n'allons pas projeter, que je vous recommande, bien-aimés, de lire à la maison. Parce que c'est un peu long. Donc, je vous recommande de lire ces versets de 31 à 33 à la maison pour voir vraiment la nature de son châtiment. Pourquoi Dieu l'a châtié? Pour quelle raison? Et ce qui nous concerne, c'est à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Nous allons lire au moins ces trois versets. Il nous dit alors la parole de Dieu. Au verset 34. Après le temps marqué par moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Ça, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas? De lever les yeux vers le ciel. C'est la grâce de Dieu même de marcher. C'est la grâce de Dieu de venir ce matin dans ce lieu. C'est la grâce de Dieu. J'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Ça, c'est Nabucodonosor qui parle. Hein? J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Écoute, ça c'est très fort. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Tous les habitants de la terre, aux yeux de l'Éternel, dit ce roi, ne sont que néant. Il agit comme il lui plaît. Donc, il dit que Dieu agit comme ça lui plaît. Avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? Qui va dire à l'Éternel, que fais-tu? Il y a d'autres versions. On a ajouté, que fais-tu là? En ce temps, la raison me revint. C'est toujours le roi Nebuchadnezzar. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Qui lui a rendu cela? Mes conseillers et mes grands je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Imbu de lui-même, orgueilleux, vantard, comme on peut dire. Oui, Nebuchadnezzar a reconnu la souveraineté de Dieu. Il a reconnu que Dieu est souverain. Proclamer tout haut que Dieu est souverain, qu'est-ce que cela signifie? C'est déclarer simplement qu'il est réellement Dieu. Proclamer qu'il est réellement Dieu. Et c'est reconnaître aussi qu'il est le Dieu très haut. Et sa capacité d'accomplir, bien aimé, tous ses desseins à l'égard de l'armée des cieux et les habitants de la terre, sans que nul ne résiste à sa puissante main. Qui va lui demander « Que fais-tu là ? Pourquoi tu es là ?» Dieu est le Tout-Puissant. Tout pouvoir lui appartient. Tout pouvoir appartient à notre Dieu, au ciel et sur la terre. Il domine sur les nations, nous dit les psalmistes, psaume 22 au verset 29. Dieu domine sur les nations. Il établit des royaumes, il établit des gouvernements, il renverse des empires, il décide de l'histoire de chaque dynastie selon son bon plaisir. Personne ne peut le dicter quoi que ce soit. C'est lui le maître, le souverain. Il est le seul souverain, il est le roi, donc avec un grand roi, le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs, notre Dieu. Il est omnipotent parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est ça qui signifie l'omnipotence. Il est omniprésent, donc il est partout. Il est aussi omniscient parce qu'il sait tout. Il règne partout et il règne sur tout notre Dieu. Alors, que signifie cette expression, la souveraineté des dieux? Nous pouvons dire simplement, bien-aimé, que c'est sa divinité. Dieu est divin, l'incomparable, l'insondable, l'incommensurable. Ce matin, je voulais partager avec vous la souveraineté de Dieu et la prière. La souveraineté de Dieu et la prière. Et ça, nous allons lire deux textes dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandions quelque chose selon sa volonté, si nous demandions quelque chose selon sa volonté, il fait quoi? Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quel que soit ce que nous lui avons demandé. Mais si nous le faisons, donc nous, cette chose nous demandons selon sa volonté, nous avons cette certitude que nous l'avons. Ces deux textes que nous venons de lire, bien-aimés, c'est une assurance. Ces deux textes certifient que le Dieu souverain exauce nos prières. Exauce nos prières quand nous nous approchons du trône de grâce, nous dit Hébreux 4, verset 16. Je vais en parenthèse et je la ferme aussitôt, avant de poursuivre. Le frère Eric, il a dit ceci que nous demandons à Dieu. Il y en a qui souffrent parmi nous. Eric, si vous avez vu, il était debout, mais il souffrait. Il avait mal au dos. Il n'avait pas bien dormi la nuit. Mais ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, toi qui entends cette prière, quand il a cité pour tout le monde, il est aussi celui qui exauce et qui guérit. Que tous ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, ils sachent que Dieu les a déjà visités. Il est souverain, il va étendre sa main, il va le relever au nom de Jésus. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, ces deux textes, comme je disais, nous certifient que Dieu exauce nos prières. Et l'expression que nous avons au verset 14 de ces textes que nous venons de lire, selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est la clé. C'est la clé, encore une fois, c'est la clé de l'exaucement de nos prières. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. C'est ça la clé de l'exaucement de nos prières. Prier selon la volonté de Dieu, c'est prier en accord avec ce que Dieu désire. Il n'y a pas autre chose. Prier selon la volonté du Père, c'est prier selon ce que lui, il désire. Et non lui réclamer, bien-aimé, ce que nous voudrions voir s'accomplir dans nos vies. Rappelons-nous des Nébuchadnezzar. Qui peut commander Dieu? Qui peut lui dire, que fais-tu là? Qui? Alors, prier selon la volonté de Dieu, c'est être en accord avec lui. Jean 14, verset 13 au verset 14, nous lisons ceci. Là, c'est Jésus, notre Seigneur. Il dit ceci, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ah. Tout ce que je demande au nom de Jésus, il le fera. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il répète encore. Il insiste, si vous demandez quelque chose encore en mon nom, je le ferai. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que c'est une grâce d'être appelé ambassadeur et ambassadrice de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices de Jésus-Christ. Et en priant en son nom, qu'est-ce que nous faisons? Prier au nom de Jésus, nous revendiquons son autorité. Nous prions pour son honneur, selon sa volonté. Le Seigneur Jésus, dans Jean 16, au verset 23, ici, le Seigneur Jésus s'adresse à ses disciples. Vous et moi, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Même ceux qui sont aux hommes. Donc, nous sommes tous et toutes ses disciples. Et quand Jésus parle en s'adressant à ses disciples, il nous dit ceci. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez ou ce que vous demandez au nom de Jésus, demandez au nom de Jésus. Encore une fois. Mais qui est Jésus? Qui est Jésus? En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous donnera. Jésus dit, ce que tu demandes au Père, en mon nom, il vous donnera. Pour nous, ce matin, que signifie alors demander au nom de Jésus? Que signifie demander au nom de Jésus? C'est quoi au juste? Ceci n'est pas un simple, donc ceci n'est pas une simple formule. Ce n'est pas une simple formule de prière, ni de la conclusion de nos supplications. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Ce n'est pas la conclusion même de nos supplications. Vous savez, bien souvent, à la fin de notre prière, nous disons toujours au nom de Jésus. Mais moi, ce matin, devant vous, je le fais. Je le dis au nom de Jésus. Est-ce que c'est un péché? Ou est-ce que je dérape? Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, c'est juste. C'est juste et c'est vrai. Il faut adresser nos prières à Dieu le Père au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut le faire. Mais, ce que nous pouvons comprendre, c'est là où c'est important. Que prier au nom de Jésus, c'est prier comme si Christ bien-aimé lui-même était demandeur. Je répète, prier au nom de Jésus, c'est comme si Christ lui-même était demandeur. Jésus à ma place. Il demande ça pour moi au Père. À ma place, Jésus demande ça à mon Père. Vous vous rendez compte? Je suis malade, j'ai dit à Jésus, mais je veux être guéri. Dis à papa hein, que je veux être guéri. Priez au nom de Jésus. C'est comme si Christ lui-même était demandeur, c'est-à-dire demander à Dieu ce que Christ demanderait à ta place à Dieu. En résumé, demander au nom de Christ revient encore une fois de remettre notre volonté de côté. Je prends ma volonté, Adrien ou mes bien-aimés, je mets ma volonté de côté et j'accepte la volonté souveraine du Dieu vivant et vrai. C'est ça, prier au nom de Jésus. Mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres points importants pour obtenir ce que nous voulons de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prier, c'est-à-dire si Christ était demandeur. Et l'autre point que nous pouvons dire aussi, c'est commencer par lui obéir. Obéir à Dieu, c'est quoi? Vous le savez, je ne vais rien vous apprendre. Obéir à Dieu, c'est garder et mettre en pratique ses commandements. C'est ça, obéir à Dieu. Et nous savons tous, ce que, comme la Bible nous dit, que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est-à-dire Dieu a supporté, accepté et à mettre en pratique ne sont pas pénibles. Mais cela ne dit pas tout. Si j'accepte et je garde ces commandements, je les mets en pratique, parce que je dois demander au nom de Jésus à Dieu, donc je dois aussi prier avec foi. Jésus a dit, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Si je mets en pratique les commandements de Dieu, de Jésus, et si je les accepte et j'obéis à ces commandements, j'ai pris avec foi, alors ça déclenche quelque chose. Car, bien aimé, si nous prions avec foi, la vraie foi s'exprime toujours par l'obéissance. Il n'y a pas d'autre solution. La vraie foi s'exprime toujours par l'obéissance. Alors, nous pouvons dire que la foi est l'arbre. C'est l'arbre dont le fruit est l'obéissance. La foi, c'est un arbre. Et nous voyons autour, il y a des branchioles, etc. C'est l'obéissance. Autre point, toujours au nom de Jésus. Prier, c'est entrer en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous savons que les trois forment qu'une seule personne. Mais vous savez, entrer en communion, quand je suis devant le trône des grâces, en présence de Dieu souverain, je suis en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors il se passe quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui se crée. C'est quoi au juste qui se crée? C'est une unité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Et moi qui viens devant le trône des grâces pour implorer Dieu, il y a une unité qui se passe. L'unité de quoi? C'est l'unité des pensées entre son esprit, l'esprit du Dieu vivant, et le nôtre. Pendant ces temps, devant le trône des grâces où je suis à genoux et prié avec foi, cette unité passe de pensée. Bien-aimé, Dieu notre Père veut que nous prions pour lui demander tous ses dons nous avons besoin. C'est les désirs du Père. Romains 11, verset 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Ambroise, ce n'est pas André, etc. Mais c'est de lui, le Dieu. Notre Père, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Dieu est la source. Il est non pas seulement la source, mais il est le soutien. Il est aussi le juste fin de tout ce qui existe, bien-aimé. À lui, à notre Dieu, la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté dans les siècles et pour tous les siècles. Amen. Dieu, il sait tout. Il connaît tout. Il a prédestiné toute chose, bien-aimé. Tout événement, avant la fondation du monde, Entre parenthèses, tout ce qui peut nous arriver ou ce qui nous est arrivé ce matin. Moi-même, en parlant, j'ai essayé encore, je démarre la voiture ne démarre pas. Mais lui, il savait. Il savait que la voiture n'allait pas démarrer. Il savait aussi que le mécano n'allait pas t'appeler hier. Il savait. Il a prédestiné toute chose. Tout événement qui nous arrive, Dieu le savait. Il sait tout. Avant même la fondation du monde. Alors nous pouvons nous poser d'autres questions parce que papa, il sait tout. Il connaît tout. Mais pourquoi alors répondre mon âme bien-aimée, lui faire connaître mes besoins? Et pourtant, il dit que Dieu veut que nous puissions lui prier pour lui soumettre nos besoins, lui parler, parce que c'est un Dieu de relation. Mais pourquoi alors, toi qui connais tout, je vais venir vers toi, répondre mon âme et te faire connaître mes besoins? Parce que tu sais et tu connaissais tout avant. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous qui entendez cette parole, le but de la prière n'est pas informer Dieu comme si Dieu était ignorant. Ce n'est pas quand je m'avance devant Dieu pour lui dire « Père, ceci, cela, etc. » que c'est comme si Dieu était ignorant de ce que tu vas lui dire ou ce que nous allons lui dire. Dieu n'est pas ignorant. Mais qu'est-ce qu'il est alors si Dieu n'est pas ignorant? C'est-à-dire, c'est à nous de reconnaître l'omniscience de Dieu. C'est ça. C'est à nous de reconnaître que Dieu est omniscient, il sait tout. Je n'ai pas à m'apitoyer ce qui m'arrive aujourd'hui, ce qui m'arrivera demain. Il sait tout, il a tout prédestiné, tout événement dans ma vie, dans la vie de ma famille, de mon épouse, de nos enfants, etc. Il sait tout. Parce qu'il est souverain, il est maître de toutes circonstances, notre Dieu. Nous-mêmes, nous vivons, moi et ma maison, une épreuve difficile. Mais papa savait tout. Il était au courant de tout. Même si ça nous fait mal, il savait. Je m'incline alors à ses pieds. Inclinons-nous alors à ses pieds. À ce Dieu souverain, tout-puissant, qui contrôle tout. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons reconnaître son omniscience en tout temps. Jésus, dans Matthieu 6, verset 8, il disait ceci. Ah! C'est encore l'omniscience. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Papa, tu savais tout avant même que je m'incline devant toi pour te demander ça. Tu savais la souveraineté de Dieu. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Et il est prêt à nous donner infiniment, au-delà même de ce que nous demandons ou de ce que nous pensons. Parce qu'il est Dieu, il connaît tout. C'est pourquoi Jésus, dans ses textes, voulait seulement nous apprendre que notre demande n'est pas de renseigner Dieu quand nous prions, ce n'est pas de lui renseigner qu'il est ignorant de notre problème sur nos besoins, mais c'est de reconnaître devant Dieu les sentiments de nos besoins. Ah, les sentiments de mon besoin. Un besoin. Je prends un exemple simple. Seigneur, j'ai besoin d'une machine à laver. Dieu me fait grâce de pouvoir obtenir cette machine à laver, n'est-ce pas? Et pouvoir aux besoins matériels, spirituels. J'achète. Je mets à la maison. 5 mois après, la machine, elle tourne à merveille encore. Je vais dans la grande surface, je trouve une publicité. il y a une machine à laver silencieuse, dont le design me flatte, m'attire. Je vis encore ma joie devant Dieu. Seigneur, je veux cette machine-là. Elle est belle, n'est-ce pas, papa? Elle est design. Elle est silencieuse en plus. Je la veux. Est-ce que ces besoins font la volonté de Dieu? Et pourtant que l'autre est à la maison, tu ne l'as pas donné à quelqu'un d'autre pour dire que voilà que Seigneur, je manque, mais j'ai besoin. Tu n'es pas venu devant Dieu pour lui dire que Seigneur, je manque, mais j'ai besoin. Parce que tu dis à Dieu ce que toi tu veux. Donc tu obliges à Dieu de pourvoir à ses besoins parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle a design, elle est design, etc. Bien-aimé, ceci n'est pas faire la volonté de Dieu. C'est un exemple parmi tant d'autres. Un exemple parmi tant d'autres. Une autre encore, je vois des jeunes filles ici au milieu de nous. Mais je vais vous dire quelque chose. Les jeunes filles célibataires. Il y avait un enfant de Dieu, une jeune fille qui aimait le Seigneur. Et après, c'est une histoire vraie. La jeune fille reste dans la prière, elle dit « Seigneur, c'est toi ». C'était bien le consentement de sa prière et sa supplication. « Seigneur, tu veux que l'homme ne soit pas seul. Tu m'as créé, je me revois vis-à-vis. Donc, je veux me marier. Je veux que tu me donnes une âme sœur. » C'est juste, n'est-ce pas? Elle a besoin parce que c'est la parole de Dieu. Mais alors après, il dit « Seigneur, je vais sortir, je vais aller sur ce rond-point. » Si la première voiture qui passe, elle est rouge, donc tu as exaucé ma prière. Je veux me marier avec telle personne. Convaincue, elle est sortie. La première voiture qui passe, c'est une voiture rouge. Bingo! C'est la volonté de Dieu. Je veux me marier. Je résume, elle s'est mariée. Au bout de quelques mois seulement, divorcée. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que sa prière était vraiment sur la voie de Dieu? Je ne pense pas. Quand Dieu prend ses responsabilités pour unir deux personnes, il est fait avec assurance. Il est béni. Il bénit leur progéniture, etc. Oui, bien-aimé, c'est de reconnaître les sentiments de nos besoins, puisque les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. On ne peut pas mettre Dieu sur le même pied d'égalité que nous. Une question se pose alors. À quoi alors sert la prière? Si Dieu sait tout, si Dieu connaît tout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, mais à quoi ça sert alors de prier? La prière, c'est la manière, le moyen choisi et voulu par Dieu, le Père, pour nous communiquer les bénédictions de sa bonté. C'est un moyen que Dieu a choisi. À quoi ça sert de prier? C'est ce moyen que Dieu a voulu. Bien-aimé, il a choisi de son propre gré, de sa volonté, de sa divinité, bien-aimé, de nous communiquer les bénédictions de sa bonté. Plus Dieu a prévu et promis ses bénédictions pour nous, il désire aussi toutefois nous les accorder, comment? En réponse à nos prières. Parce qu'il est Dieu, il sait déjà. Pourquoi nous pouvons dire, papa, c'est un privilège pour nous. C'est un grand privilège de demander à notre Père Céleste les bénédictions qu'il a promis pour chacun de nous. C'est un privilège de lui demander. S'il dit lui-même que ça, j'ai déjà prévu ça d'avance pour toi, mais moi je ne les connais pas. Alors, puisque tu ne les connais pas, mais moi je sais, demande-moi. Demande-moi, je te dirai, je te montrerai. Je t'instruis en même temps. Je vais te montrer la voie, le chemin que tu dois suivre pour arriver jusqu'à cette bénédiction que moi, j'ai promis, que j'ai planifié pour toi dans ta vie. Mais, encore une fois, la meilleure façon de les avoir, c'est dans la soumission à sa volonté. Même s'il a promis, même si cela est vrai et juste, mais la meilleure façon de les avoir, c'est bénédiction, c'est dans la soumission, bien aimé, à sa volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jacques au chapitre 1, verset 17, nous confirme quelque chose. Dieu, donc la partie B du verset, c'est vrai que la partie B du verset. Il nous dit, Dieu est le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Il ne varie pas comme nous. Je t'ai dit ça aujourd'hui, demain je change mon avis. Ce n'est pas Dieu. Non, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il y a ombre, l'ombre seulement. Il n'y en a pas chez lui. C'est pourquoi, bien aimé, ces caractères immuables, c'est-à-dire inchangeables, Dieu ne change pas ces caractères immuables de notre Père, le grand Dieu. C'est un grand encouragement pour chacun de nous. C'est un encouragement de savoir que quand je me prosterne devant lui, quand je confesse le péché devant lui, Dieu ne change pas son avis pour moi. Il a promis de me bénir, de bénir ma famille, de bénir mes bien-aimés, de bénir son Église, son peuple. Dieu ne change pas, bien-aimé. Il ne varie pas, notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas. C'est pourquoi c'est un encouragement pour nous à prier, parce que nous savons qu'il nous écoute. Quand nous lui adressons une requête selon sa volonté. La sœur Josiane, elle a entonné un chant qui est dans les livres de Job. Mon oreille avait entendu parler de toi. Dieu incline son oreille. Job a crié à Dieu. Maintenant, je vois, je crois. Quand nous adressons, bien-aimé, une requête selon sa volonté, Dieu, il nous écoute. Il y a une citation de Luther qui disait ceci, que la prière ne triomphe pas du refus de Dieu. La prière ne triomphe pas du refus de Dieu. Mais qu'est-ce que fait la prière? Elle saisit la volonté de Dieu. Quand nous prions, la prière saisit la volonté de Dieu. Ce n'est pas le refus de Dieu, c'est sa volonté quand nous prions. Nous saisissons la volonté souveraine de Dieu. Il y a quelqu'un qui disait que la prière est la locomotive qui fait déplacer la puissance éternelle de Dieu. C'est la locomotive. C'est un train qui fait déplacer. Quand je prie Dieu, quand j'implore sa grâce, quand je m'incline à ses pieds, avec foi, en faisant sa volonté, alors sa puissance se déplace. Par la prière. Vous vous rendez compte? La prière, c'est pire qu'une bombe atomique. C'est pire que tout quand nous prions à la volonté du Seigneur. Si la prière est ce moyen choisi par Dieu, mais il y a encore d'autres exemples dans la Bible qui nous font comprendre quoi? Que Dieu répond tantôt d'une façon ou d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il répond toujours. Toujours il répond. Il nous dit, tiens, ok, oui, maintenant. Vous vous rappelez d'Ozias, ce roi? Et quand Ésaïe sortit du palais royal, tout d'un coup, c'était la réponse fusée de Dieu que je veux donner à mon serviteur encore des jours. Parce qu'il était censé de mourir, de partir, le roi. Mais Dieu a ajouté encore des coudées dans sa vie. Ça, c'est la réponse fusée, directe, oui. Mais il y a d'autres réponses que Dieu nous dit, ah, mon enfant, attends, attends, attends. Tu es un peu trop pressé, mais attends. Il y a d'autres réponses. Tu veux ça, tu es patient, mais moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas de ça. Il est souverain, n'est-ce pas? Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Alors, je disais que, pour ça, je prends un exemple. Dans 2 Corinthiens 12, qui n'est pas ma fille, qui n'est pas à projeter, qu'est-ce que Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 12? C'est l'histoire de Paul. Paul a reçu un grand privilège, ce grand apôtre, un grand docteur, etc. Il a reçu ce grand privilège d'être transporté dans le lieu céleste. On peut dire aujourd'hui dans un langage courant, mais ce n'est pas n'importe qui. Il a été transporté dans le lieu céleste. Nous pouvons conclure que de son retour, il va avoir des épaules. Il va dire, moi j'ai été transporté dans le lieu céleste, mais vous, rien du tout. Ou un mot comme les gens, les enfants disent, mais il ne faut pas utiliser ce vocabulaire, que dalle. Non, pas vous. Paul, bien-aimé, cette expérience qu'il a vécue, personne n'a vécu cette expérience dans cette vie. D'aller projeter dans le lieu céleste, bien-aimé. Nous connaissons la suite. La suite, c'est quoi? C'est une écharde dans sa chair. C'est ça, une écharde dans la chair de Paul. Vous vous rendez compte, une écharde dans ta chair, la douleur que ça fait. C'est douloureux, c'est insupportable les chardes dans la chair. Qu'a fait Paul? Qu'est-ce que nous allons faire à la place de Paul? Nous allons agir comme lui, n'est-ce pas? C'est de se mettre à genoux quand quelque chose ne va pas. C'est là juste ce que Paul a fait. C'est de supplier Dieu. Le psaume 37 nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance. Et lui, il agira. C'est ce que Paul a vu. Il dit, mais Seigneur, je ne plie devant toi. J'ai ce besoin que l'écharpe sorte de mon corps. Je m'incline devant ça. Il a fait. Il a fait tout cela. Moi et vous, nous allons faire pareil comme Paul. Cette écharpe n'était autre que le message du diable. Pourquoi? C'est pour empêcher Paul de s'enorgueillir. Il voulait empêcher seulement Paul de s'enorgueillir, l'écharde. Et là encore, nous allons dire, mais la volonté souveraine de Dieu, Dieu savait tout, il savait que ça va arriver, donc il permet que Satan attaque Paul pour le... Mais on va se poser tant de questions. La réponse, Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi il a fait? La réponse lui appartient. Paul a supplié Dieu à 3 reprises, afin que Dieu lui enlève cette écharde. Est-ce que la prière de Paul était exaucée? Je vous pose la question. Est-ce que sa prière était exaucée? Pardon? Très bien. Donc, voilà, il y a un non, mais le oui est beaucoup plus positif. C'est vrai. C'est vrai, bien-aimé, que sa prière a été exaucée. Mais non de la manière dont Paul désirait, mais selon la volonté de Dieu. Et quel est l'exaucement de sa prière? Quel est l'exaucement de sa prière? Le fardeau n'a pas été ôté, n'est-ce pas? Les chambres étaient toujours là. Mais l'exaucement, c'est quoi? Je te donne la force de supporter, de porter ces fardeaux. Ma grâce te suffit. Amen. Ça, c'est la réponse de Dieu. Dieu a exaucé la prière. Donc, il y a des circonstances où Dieu nous dit non. Oui, attends et non. Pour Paul, il a dit, c'est que toi tu veux, moi je ne veux pas, mais je te donne autre chose. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons bien discerner, faire la volonté de Dieu quand nous nous inclinons devant Dieu et lui demander quelque chose. Autre exemple, celui du grand maître, Jésus, le Seigneur. Jésus était venu sur la terre pour faire non sa volonté, mais la volonté de son Père. Lisons Marc 14, 35 à 36. Marc 14, 35 à 36. Puis ayant fait quelques pas en avant, donc c'est Jésus, il se jeta contre la terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. S'il était possible, Jésus est Dieu, mais pendant ce temps-là, Jésus était homme. La Bible nous enseigne que Jésus est Dieu, il est en même temps homme. Il dit que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Au verset 36, il disait, Abba. Abba, c'est papa. Papa. Jésus appelait son père, papa. Père, toute chose t'est possible. Toute chose t'est possible. C'est-à-dire que dans cette souffrance-là, Jésus disait que, papa, toute chose t'est possible. C'est-à-dire que tu peux éloigner cette heure-là. Tu peux me l'éloigner de cela. Tout est possible. Une parenthèse, je la ferme tout de suite. Je vois, j'entends, nous voyons, nous entendons. Impossible n'est pas français. Mais c'est Dieu qui dirige les nations, n'est-ce pas? C'est Dieu qui gouverne les nations. Impossible n'est pas français. Impossible n'est pas Dieu. Ce n'est pas français. C'est Dieu de l'impossible. Ce n'est pas nous les hommes. Ce n'est pas les nations. Ce n'est pas les gouvernements. Ce n'est pas les dynasties. C'est Dieu qui est le Dieu de l'impossible. Ici, Jésus le dit. Tout est possible. Alors, comment l'homme peut se situer à la place de Dieu pour dire que moi, l'impossible n'est pas français? Je ferme la parenthèse, bien-aimé. Toute chose était possible, pardon. Et loin de moi cette coupe. Toutefois, non. Et c'est ça qui est agréable. Donc, après avoir dit cela, et tout ce qui dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Jésus. Jésus. Jésus savait que l'heure, donc, ici, l'heure, c'est le don de sa mort. Jésus savait qu'il allait partir, il allait mourir. Il allait se séparer momentanément avec Dieu, son Père, que cette heure était arrivée. C'est pourquoi Jésus, comme nous venons de lire, il demanda à Dieu, en tant qu'homme, demanda à Dieu et pria à Dieu de l'éloigner de cette heure, dans cette séparation, cette mort, de l'éloigner et de cette coupe-là que Jésus parlait, c'est, ça représente la colère, le châtiment de Dieu pour l'humanité. Il savait qu'il allait souffrir, Jésus. Mais ce qu'il a dit, c'est agréable à entendre. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, ce que le Père veut, que ta volonté soit faite. Si vous que je passe par là pour sauver l'humanité, je passerai. Jésus. Quel bel exemple de la soumission de Jésus à la volonté de Dieu, à l'obéissance à Dieu. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Est-ce que voulons-nous les suivre? Nous qui prions au nom de Jésus. Voulons-nous suivre l'exemple de Jésus? Nous prions, nous demandons à la fin de nos prières au nom de Jésus. Mais voulons-nous suivre cet exemple parfait de Jésus? Non pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette exhortation. Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier? À quoi sert la prière? Pourquoi Dieu nous demande-t-il de prier? Premièrement, parce que la prière a été établie pour honorer le Dieu vivant et vrai, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Dieu a établi la prière pour l'honorer, parce que c'est un Dieu, encore une fois, je répète, que c'est un Dieu de relation. Il veut parler à son peuple. Il veut que nous communiquions avec lui. Dieu nous demande de reconnaître qu'il est vraiment et il est réellement le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, dont la demeure est éternelle, nous dit Ésaïe 57, verset 15. Sa demeure est éternelle. Donc, c'est pourquoi nous devons reconnaître qu'il est le Très-Haut. Quand nous prions, nous devons reconnaître que Dieu est Très-Haut. Il est dans les ciels. Il nous regarde, il sait tout de nous. Dieu veut que nous l'honorons dans la prière. Honorer Dieu dans la prière, c'est quoi? C'est promouvoir, bien-aimé, c'est-à-dire élever la gloire. Sa gloire, sa majesté, son autorité. Nous devons élever cela, bien-aimé, quand nous prions. C'est ça, honorer notre Dieu. Vous savez, dans Hébreux, Dieu dit que voilà, que j'honore ce qui m'honore. Dieu honore ce qui l'honore. Alors nous devons, dans nos prières, élever la gloire de Dieu, promouvoir cette gloire. Dieu veut que nous l'adorions. Nous l'avons fait ce matin, par nos chants, par nos prières. La véritable prière, c'est aussi un acte d'adoration. Nous avons adoré Dieu, nous avons chanté, nous l'avons loué, nous l'avons glorifié. Et Dieu est dans la joie. C'est pourquoi il siège au milieu de son peuple, quand son peuple l'adore. Deuxième point, pourquoi Dieu nous demande de prier? Parce que la prière est voulue par Dieu. Dieu veut que nous prions. C'est un moyen d'obtenir des bénédictions spirituelles, que ce soit matérielles, et croire dans la grâce de Dieu. Dieu a institué la prière pour nous rendre humbles. C'est pourquoi Dieu a institué la prière. Pourquoi il veut que nous prions? Parce qu'il a institué ça pour que nous puissions comprendre que nous sommes petits, petits, petits devant Dieu. Notre petitesse devant lui, les grands dieux. Dieu est au-dessus de tout. Il est grand, il est fort, il est digne d'être loué, adoré, honoré. Nous sommes que des vases inutiles, dont dans sa grâce, il transforme en vases utiles. Dieu nous aime, bien-aimés. Il est encore ce matin avec nous. Il est toujours avec nous. Il sera avec nous même après. Même quand nous sortons d'ici, nous rentrons chez nous, il est avec nous sur la route, il est avec nous. Il prend soin de nous, il veille sur nous, il nous protège et il pourvoit à tous nos besoins. Vous savez, il y a un cantique que nous aimons tous qui nous dit ceci, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? C'est une prière. Il abaisse son regard sur nous. Il nous voit, il nous connaît. Il sait déjà qu'est-ce que nous allons lui demander. Mais cette douce voix, l'entendez-vous? Qu'est-ce que cette douce voix dit? Cette douce voix nous dit, je vous aime tous. Moi, Jésus, votre Seigneur, je vous aime tous. Moi, Jésus, votre Seigneur, je veux vous bénir tous. Quand nous entendons cette douce voix qui nous dit, qui nous parle en ces termes, bien-aimés, qu'est-ce que ça fait en nous, dans notre force intérieure, dans notre personnalité? Ça nous stimule, ça stimule cet amour devant encore Dieu davantage, parce que Dieu même, je l'aime aussi. Il m'a aimé les premiers, je vais continuer à l'aimer. Mon amour pour lui, oh Dieu, Seigneur, nous disons, Seigneur, mon amour pour toi, je ne veux pas que ça change. Mais parfois, nous changeons. Mais lui ne change pas. Il nous aime toujours. Il nous bénit même pendant que nous l'ignorons, il est là. C'est pourquoi, bien-aimé, ça stimule notre amour pour lui en priant. Le psaume 116, versets 1 à 2, ça confirme ce que je viens de dire. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Je l'aime parce qu'il entend ma voix. Moi, j'ai entendu sa douce voix. Le psalmiste dit, j'aime l'Éternel car il entend ma voix. Il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Notre vie ici sur cette terre, c'est d'invoquer l'Éternel en tout et partout, en toutes circonstances. Troisième point, le dernier. Dieu a voulu la prière pour nous apprendre à lui demander tout ce dont nous avons besoin. L'omnipotence de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, comment je vais parler à ton peuple? J'ai le résumé. Ce verset est beaucoup aimé par une sœur. Je me rappelle encore, quand je suis arrivé dans cette communauté, souvent, cette sœur qui est là ce matin, elle va se sentir elle-même de qui je parle, je ne cite pas son nom. Elle aimait beaucoup ce verset, cette sœur. Peut-être à la fin du culte, elle viendra me dire, mais est-ce que c'est moi? Je le confirmerai que c'est vous. Alors, ce verset, c'est quoi? C'est Jérémie 29, 11 à 12. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, nous dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu veut que nous puissions prier, lui demander tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi? Ça se résume ici, car Dieu connaît tout. Encore une fois, son omniscience, il connaît tout. Ce ne sont pas des projets, des malheurs que j'ai formés pour vous. Mais Seigneur, tout ne va pas dans ma vie. Ce n'est pas possible, je cherche du travail, je ne trouve pas. Et pourtant, je suis ton enfant. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais tout ne va pas, tout tombe en panne à la maison. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mes enfants ne veulent pas, Seigneur, mes enfants, jusqu'à aujourd'hui, je leur parle de toi, mais ils sont pas encore, ils n'ont pas encore accepté que tu es le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Je connais les projets que j'ai formés pour tes enfants. Il connaît tout, nous dit l'Éternel. Mais toi, reste en paix. Ayez de l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Bien-aimé, ce que Dieu a planifié dans chacune de nos vies, même pour les plus jeunes qui sont là, ce que Dieu a planifié dans chacune de nos vies, il nous le propose. Il nous le propose à prendre par des prières sincères et non des prières égoïstes. Il nous les demande de les prendre, notre Dieu. Voici, il passe tous les matins, comme quelqu'un disait, avec son gibecière, plein de bénédictions, des cadeaux. Il arrive devant ta porte et dit, c'est qui? C'est Dieu. J'ai quelque chose pour toi. Voici les bénédictions. Dieu nous demande de prier parce qu'il a des bénédictions pour nous et il veut nous les donner parce que nous lui appartenons, parce que nous l'aimons et lui, il nous aime. Alors, pour finir, vous étiez patient, bravo. Je veux seulement vous laisser une réflexion. Et puis vous allez voir la suite, qu'est-ce qu'on va faire. Une réflexion. Je vous en supplie. Moi-même, je me suis incliné à ses pieds avant de préparer ça. Qu'est-ce que je veux vous demander, ou moi-même, en premier je fais, c'est de réviser notre manière de prier. Révisons notre manière de prier pour rendre cette façon de prier plus conforme à l'enseignement de l'Écriture. Donc, la volonté souveraine de Dieu. Non pas ma volonté, c'est que Dieu, c'est non pas ce que moi je veux, mais ce que Dieu veut. Révisons notre façon, notre manière de prier. Je n'incrimine personne. Je vous dis que moi-même, je me suis mis à genoux pour demander la grâce de Dieu. Car il nous arrive parfois dans nos prières, bien-aimés, à réduire Dieu à un simple serviteur quand nous prions. Un serviteur accomplissant quoi? Nos ordres, faisant notre bon plaisir comme le roi Nebuchadnezzar. Vous savez, entre parenthèses, ce roi, qu'est-ce qu'il avait fait pour sa femme? Il avait construit une montagne de 120 mètres de haut, avec des trucs, des arbres, des trucs reposatoires, etc., etc. L'un des meilleurs à cette époque. Orgueilleux. Mais nous, nous ne voulons pas réduire notre Dieu à un serviteur accomplissant nos ordres, faisant notre bon plaisir, cédant à nos désirs. Non. Non, non, non. Mais par contre, venons à lui en toute humilité. Toute humilité, reconnaissant notre petitesse par la prière, en confessant encore une fois, prosterne, prosterne, confesse ces chants que nous avons chantés. En confessant nos péchés. Si vous voyez le thème de mardi à dimanche, ce thème que Dieu a donné à son serviteur, notre pasteur, la voie de la sanctification. Est-ce que nous sommes dans cette voie de la sanctification? Est-ce que nous marchons pour plaire à Dieu dans cette voie de sanctification? Sinon, alors posez-nous la question. Je prie, j'implore la grâce de Dieu. Mais je mets de côté un peu la voie de la sanctification. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Approchons-nous de lui en toute humilité, en reconnaissant qu'il est le Dieu souverain, le Dieu trois fois saint, tout-puissant. Car aucune prière bien-aimée n'est agréable à Dieu si l'Esprit n'en est non pas ma volonté, mais la tienne. Aucune prière n'est agréable à Dieu. Si je ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu va-t-il agréer ma prière? Je dis non. Non. Il ne fait pas des compromis avec les hommes. Il est souverain. Il a son autorité. Tout puissant. Il décide ce qu'il veut. Personne ne va lui dire qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi ceci? Personne. Personne ne peut lui dire. Alors, pour finir, bien-aimé, je vous laisse. Trois versets et la dernière, comme je vous ai promis, nous allons faire quelque chose. Premier verset que je vous laisse, dans Jérémie 10, verset 23, qui nous dit ceci. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme de faire ça. Dans Jacques 4, verset 3, il nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, c'est lui qui est vraiment fort, c'est Luc 11, verset 1. Tout ce que nous venons de partager ensemble, la souveraineté de Dieu et la prière. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est ça. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Luc 11, verset 1. Si je ne sais pas quoi demander, je peux faire des efforts, des erreurs. Je ne suis pas dans ta volonté. Enseigne-moi, papa, comment je dois prier. Alors, pour cela, Jésus a dit, je vais vous donner un modèle. Je vous demande de vous mettre debout. De vous mettre debout. Et il n'y a pas quelque chose de grave. Hein? C'est simple, vous allez voir. De vous mettre debout. Et Sarah va nous projeter Matthieu 6, verset 9 à 13. C'est la prière. Enseigne-nous à prier. Voilà l'enseignement de Jésus sur la prière. Qu'est-ce que Jésus dit? Nous allons tous réciter cette prière ensemble. La prière, c'est quoi? C'est le titre, c'est Notre Père. Alors, nous allons lire comme prière ce que Jésus nous enseigne. Voici donc comment vous devez prier. Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi, Christian, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Voilà ce modèle parfait que Dieu, que Jésus nous a laissé, comment nous devons prier. Enseigne-nous à prier. Et dans ces trois, dans ce modèle-là, il y a trois sujets, et six sujets par an. Je vais finir par là. Il y a trois sujets qui vont vers Dieu, et puis trois qui vont vers l'homme. Il y a six au total dans cette prière. Vous pouvez voir ça quand vous allez rentrer à la maison, vous allez relire ça, vous allez voir ça. Il y a trois pour l'homme et trois pour Dieu. Pour Dieu, que ton nom soit sanctifié. Quand nous prions, voici le modèle. Nous devons sanctifier le nom de Dieu, le chemin de la sanctification. Que ton règne vienne, proclamer toujours que le règne de Dieu est là parmi nous. Que ton règne vienne. Alors, ce que nous venons de partager, que ta volonté soit faite. Maintenant, les trois autres sujets pour l'homme. Donne-nous notre pain quotidien. Ah, Dieu pourvoit, l'omnipotence de Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. Pardonne-nous nos offenses, la confession. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Croyez-vous que si aujourd'hui tu as un problème avec quelqu'un, tu ne pardonnes pas, Dieu va exaucer ta prière? Laisse d'abord. Laisse ton problème, va te réconcilier avec ton frère ou ta soeur, ou ton père, ta mère, ton enfant, etc. Avant que moi j'écoute et j'exauce ta prière. Pardonne nos offenses. Troisième point, ne nous induis pas à la tentation. Dieu ne tente pas quelqu'un. Non, mais délivre-nous du malin. La protection divine, la délivrance de Dieu. L'omniscience de Dieu, il sait que là, mon enfant, tu es sur un chemin ou alors comme Paul, Satan va t'attaquer, etc. Satan nous attaque tout le temps. Tout le temps. C'est son job. Il nous attaque tout le temps. Mais Dieu est là pour nous en délivrer. Amen. Thank you.